dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, au premier chapitre. En commençant au verset 8. Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, et un persécuteur, et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La loi, l'évangile. L'évangile est qui continue à être proclamé dans le monde. L'évangile qui est dans les pays chrétiens est connu dans ses grandes lignes par des multitudes. L'évangile est que nous avons le devoir de faire connaître en parole et en acte, en témoignage, de sorte que la puissance de Dieu dans cet évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, se déploie à la gloire de Dieu et continue à le faire. L'évangile est quelque chose de simple, mais de tout simple, de trop simple au regard des hommes, selon la pensée des hommes. Mais c'est toujours le même évangile dont la puissance se fait connaître depuis tant de siècles. Ou en réalité, déjà à l'avance, avant que Christ vînt, la grâce de Dieu opérait, mais depuis que l'évangile du Christ, l'évangile de la réconciliation opérée par l'œuvre de Christ et prêchée. Peu de résultats qui ont été produits. Mais je reviens à ceci, c'est que il est quelque chose de si simple que l'homme naturel, que notre intelligence et que, disons aussi, le cœur humain s'en détourne facilement. Nous avons ici cet évangile présenté dans toute sa simplicité. Le grand apôtre qui a été l'instrument de Dieu pour présenter tant de vérités diverses, si élevées. Le résume ici dans quelques mots bien connus, souvent répétés, qui en donnent l'essence, n'est-ce pas ? Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, non pas seulement des pécheurs, mais les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Quelle simplicité, en effet, est dans cet évangile. Et comme il est étrange que on n'y prête pas plus d'attention. En réalité, beaucoup le connaissent, beaucoup pourraient en exposer les éléments qui, en réalité, n'ont jamais été touchés par lui. Dieu sait l'œuvre produite dans le cœur, mais que d'âmes, et qui ont été en contact avec l'Évangile, et je pense particulièrement à des enfants de chrétiens, à des jeunes gens, et des personnes qui ont grandi, ayant eu l'enseignement de l'Évangile, qui ne diraient pas qu'elles ne le croient pas, qui ne diraient pas que ce n'est pas la vérité. Dieu sait, je le répète, ce qu'il en est dans le fond du cœur, dans le fond de l'âme. Et on va y revenir. Mais qui, si on les presse un peu, apparaissent tellement indifférentes en réalité, ou inertes, froides, vis-à-vis de ce qui est la proclamation de la grâce infinie de Dieu envers des pécheurs. Nous en connaissons tous des âmes semblables, et il en est des multitudes dans ce monde, et la multitude des chrétiens de nom, qui pourraient réciter des passages entiers de la parole, mais il semble que cela a glissé sur eux. Et ils ne peuvent pas se réjouir de ce qui est la joie excellente de ceux qui ont saisi la valeur, la réalité de cet évangile. Il est trop simple, en effet. Et puis c'est toujours le même. Il n'est pas changé. Il est monotone. Et l'esprit des hommes aime le changement, la variété. Et c'est pourquoi il y a tant et tant de doctrine, et tant d'enseignement, et tant de spéculation qui prennent, dit-on, leur point de départ dans l'Évangile, qui disent développer l'Évangile et qui en réalité non seulement le pervertissent, mais l'annulent. L'Évangile est aussi bien l'Évangile dans toute sa portée, car l'Évangile ne se réduit pas seulement à l'appel des âmes et à la proclamation salut par la foi en Christ et en son œuvre, mais il s'étend à tous les résultats, mais même en le limitant à ces éléments essentiels, fondamentaux, l'Évangile n'a pas varié parce qu'il est la proclamation de ce que Dieu est dans toutes ses perfections et dont son bonheur infini. L'apôtre l'appelle ici l'Évangile qu'il prêchait, il l'appelle l'Évangile de la gloire et du Dieu bienheureux. La gloire, c'est l'ensemble des perfections divines. Dieu met par l'Évangile toutes ses gloires, toutes ses perfections à la disposition de l'homme pour sa bénédiction. Il est le Dieu qui veut bénir. Et l'homme ne reçoit pas. Pourquoi ? Oh, une des grandes raisons, c'est que ça, c'est évidemment que Satan est toujours là, à l'œuvre, pour détourner les âmes de ce qui est la parole même de Dieu. Et l'une des façons dont il détourne les multitudes, c'est précisément en donnant à l'Évangile un caractère, ce qu'on appelle l'Évangile, un caractère si général, collectif, même universel, n'est-ce pas, de telle manière que chaque âme ne se sent pas concernée. Vous réfléchissez et vous vous rendrez compte que c'est quelque chose de très général. L'Évangile, oui, oh, mais tout le monde connaît l'Évangile, mais qu'il s'agisse de chrétiens, qu'il s'agisse d'incrédules, on a parlé de l'Évangile, mais c'est quelque chose qui est passé dans notre civilisation, la civilisation chrétienne, mais que cela intéresse une âme en particulier, voilà ce dont on ne se rend pas compte. Ou plutôt, voilà ce que l'on ne veut pas. On admettra bien comme vérité générale l'Écriture. On admettra bien qu'il y a là quelque chose qui nous élève en effet au-dessus de nos pensées ordinaires et qui peut nous mettre en relation avec Dieu, mais dès qu'il s'agit de l'application de l'Évangile à l'âme individuelle, ou alors on se retire, on s'écarte. Cela est si vrai que vous pouvez demander à bien des gens, quelle que soit leur dénomination religieuse, et je reviens au milieu que nous connaissons bien, au domaine des familles de l'Assemblée, vous pouvez demander à bien des personnes, n'est-ce pas, que Dieu a fait annoncer la bonne nouvelle? Oh oui, n'est-ce pas qu'il y a un Évangile? Oui, et il est bien vrai que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, Oh oui, vous le pensez.
Oui, c'est ce que le... C'est là l'évangile.
Alors,
vous le croyez.
Alors vous êtes un enfant de Dieu.
Ah, non, je ne peux pas le dire. Est-ce que ce n'est pas une expérience que nous pourrions renouveler très fréquemment? Enfant de chrétien qui êtes ici, est-ce que vous pouvez tous dire, en réalité, j'ai cru?
Moi, l'évangile, il n'est pas pour des multitudes, pour des foules, mais il est dans ces foules pour chaque âme individuelle. L'évangile est personnel. L'évangile, on le reçoit pour soi-même.
Est-ce que tous ici, nous en sommes là, et nous,
et je parle alors à ceux qui vraiment croient, par la grâce de Dieu, et ceux qui peuvent se dire, nés de nouveau, est-ce que nous jouissons alors de ce salut personnel, dans une connaissance personnelle avec Jésus? Est-ce que notre âme peut se réjouir dans la communion avec lui, la communion avec Dieu, même imparfaitement réalisée, si faiblement que ce soit, qu'il y ait quelque chose de cette joie excellente que l'Esprit de Dieu met dans le cœur de celui qui croit. C'est une chose individuelle. Et Satan sait bien lui faire garder un caractère collectif où, alors, chacun ne se sent plus concerné. Autrement dit, la conscience ne parle pas. Car le propre de l'évangile, c'est de répondre à des besoins éveillés dans l'âme. Des besoins de ceux qui sont ceux de la conscience. La conscience qui sent que et il y a des rapports avec Dieu qui doivent être réglés, et qu'il y a des questions qui se posent et auxquelles nous ne pouvons pas répondre, et que ces questions tiennent à notre état moral. On peut prêcher l'évangile à des foules, si il n'y a pas de besoin, eh bien, l'indifférence est là, ou le mépris, ou la haine, peu importe. S'il y a des besoins, alors l'Évangile y répond. Est-ce qu'il y a de merveilleux? Est-ce qu'il y a de divin dans cet Évangile? C'est qu'il s'adapte à tous les besoins. Il s'adapte à tous les états d'âme. Il répond aussi bien à ce que demande l'esprit le plus élevé, le plus cultivé, le savant le plus éminent, comme au plus ignorant, comme à ce que demande le cœur du plus ignorant. Il intervient et il a sa réponse aux questions que des âmes troublées, que des âmes souffrantes, que des malheureux de cette vie se posent et posent. Il est là pour répondre à votre état personnel. Y aurait-il ici une âme qui aurait besoin de ce travail, cette opération particulière de l'Esprit de Dieu en elle, pour lui parler de la grâce divine, de l'amour divin? Sachez que Dieu vous cherche, que Dieu vous aime, et que s'il vous présente l'Évangile, c'est parce qu'il sait quel est votre état, il sait quel est votre besoin. Il sait aussi quelle est votre responsabilité, et vous qui ne voulez pas entendre. Ce caractère personnel de l'évangile, on ne saurait trop y insister. On ne saurait trop y insister. Il m'est arrivé plus d'une fois de causer avec des personnes qui, de parler avec des personnes qui avaient beaucoup de connaissances religieuses même, qui avaient, qui faisaient partie de clergé et qui n'acceptaient pas, si étrange que cela puisse paraître, qui n'acceptaient pas que le salut fût quelque chose d'individuel. Mais non, c'est pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble. C'est l'une des grandes tentatives de l'ennemi à notre époque, que d'universaliser ainsi les choses du salut. Prenons des exemples dans la parole. Elle fourmille d'exemples montrant que la parole s'adapte à un état d'âme particulier, différent des uns aux autres, et que la même parole répond à tout. Je pense par exemple au cas du roi Agrippa dans le chapitre 26 du livre des Actes, quand Paul comparait devant ce roi Agrippa et devant Festus, et qu'il prononce une apologie, qu'il rappelle sa conversion, et il dit, c'est au verset 23 du chapitre 26, « Je n'ai rien dit d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé de voir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances, et que le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. » Voilà une vérité très générale. Paul résume là, d'une autre manière, l'évangile qu'il devait annoncer. La lumière de Dieu brillant à la fois pour le peuple juif et pour les nations dans la présentation de Christ souffrant et ressuscité, mort et ressuscité. Paul s'adresse particulièrement à Agrippa comme à quelqu'un qui n'était pas ignorant de ces choses, quelqu'un qui connaissait les prophètes, qui avait lu les prophètes, et qui les prophètes et Moïse, et quelqu'un était là, écoutant l'apôtre. Et quand Festus dit à Paul, tu es hors de sens, Paul, ton grand savoir te met hors de sens, Paul peut s'adresser au roi. Le roi, dit-il, a la connaissance de ces choses. Et je parle hardiment devant lui, car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car ceci n'a point été fait en secret. Roi Agrippa n'était pas sans la connaissance de ces choses. Ô roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Voilà quelqu'un qui était au courant de ce que les Écritures annonçaient, qui était certainement au courant de ce que Paul prêchait et de l'accomplissement des Écritures. Et qui était ainsi annoncé. Crois-tu? Ah, alors la question est individuelle. Que va faire Agrippa? Agrippa dit à Paul, tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. C'est-à-dire, tu vas bien vite pour me ranger parmi ceux qui sont si décrié, persécuté même, comme toi, qui est ainsi prisonnier, oh, je ne suis pas prêt de devenir chrétien. Comprenons qu'il y a de la moquerie dans
Sa parole, Denis.
Il renie dans sa réponse. Il élude d'une manière aussi spirituelle que possible ce que l'apôtre place ainsi devant lui. Mais le fait est que cet homme qui ne disconvient pas de la vérité et des prophètes, il ne dit pas « je ne crois pas aux prophètes », mais il dit « oh, mais je ne veux pas devenir chrétien ». Sa conscience n'a pas parlé. Sa conscience n'est pas atteinte. Ou, si elle est atteinte, il la fait taire. Et il se détourne de l'évangile « je n'en veux pas pour moi ». Et pourtant, quel témoignage il avait sous les yeux. Il avait quelqu'un qui venait de rapporter de quelle manière il avait été converti. Et c'était une manière divine et miraculeuse. Il avait devant lui un prisonnier qui va lui répondre et qui expose devant tous qu'il connaît une joie excellente, qu'il connaît ce que aucun des hommes qui sont là devant lui, et ses grands, et ce roi, et ce gouverneur, ne connaissent. La joie de connaître Jésus, bien qu'il fût, lui, son prisonnier dans des fers. Je souhaite que vous soyez tous comme moi. Je voudrais que tous fussent comme moi, hormis ces liens. Un autre exemple dans les Actes, et en aurait d'autres dans ce livre des Actes, c'est celui d'un autre grand, c'est celui de Félix, peu de chapitres avant celui-là, qui n'était pas sans avoir une connaissance générale de ces choses et le désir d'accroître cette connaissance. À notre époque, il y a bien des gens qui prétendent vouloir étendre leur connaissance religieuse. Ce sont des choses intéressantes, oui, mais est-ce pour vous? Félix fait venir Paul pour qu'il lui parle davantage de ces choses chrétiennes. Félix, qui avait une connaissance de ce qui regardait la voix, c'est-à-dire le témoignage des chrétiens. Et quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi en Christ. La foi en Christ. Nous comprenons, du moins nous évoquons sans peine, Paul développant ce que c'était que la foi chrétienne, la foi en un Christ mort, ressuscité, glorifié. Cela n'atteint pas Félix. Il ne répond rien. Il ne répond rien. Et ces choses n'ont pas d'attrait pour lui. Alors, Paul va le prendre autrement. Car c'est le propre aussi, essentiellement, de la parole de Dieu et de l'Évangile lui-même, et de poursuivre l'âme, et de façon ou à l'amener au bonheur infini et de connaître le salut, et de connaître Jésus et Dieu connu en lui, ou bien d'être placé devant la responsabilité qui fera qu'il aura la bouche fermée le jour du jugement. Et Paul, après avoir parlé de la foi en Christ, va parler des choses propres à atteindre cette conscience. Il va lui parler de la justice. La justice. Être juste dans ses voies devant Dieu. En est-il ainsi devant toi? Pas d'écho, sans doute, chez Félix. Et puis, la tempérance. Tu sais ce que c'est que
les passions et qu'il faut les dominer. C'est cela, la tempérance. Est-ce que tu comprends combien cela est important devant Dieu? Rien. Alors, il va plus loin, le jugement à venir. Et Félix est effrayé, mais il s'en tient là. Que va faire Félix? Il renvoie pas. Va-t'en. Quand je trouverai un moment favorable, je te ferai appeler. Et il est parti. Et Paul est parti. Et nous ne savons pas si Félix a eu d'autres occasions, mais ce que nous savons, c'est que le jugement est prêt de tomber et sur le monde et sur tous ceux qui n'auront pas voulu recevoir la parole de la grâce. Ce jugement à venir, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Et que quiconque n'a pas reçu la parole de grâce est exposé à quitter ce monde pour entrer dans l'éternité de malheur. Ceci nous ramène, nous revenons à nos versets, à ce qui est à la base même de ce travail par lequel une âme peut passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Et particulièrement lorsque elle s'est trouvée ainsi indifférente, froide, comme si l'Évangile glissait sur du marbre, alors que il parle de la grâce de Dieu. À des âmes qui paraissent ainsi endormies, encore une fois, qui ne se disent pas hostiles, mais qui prétendraient même avoir un désir de s'instruire, alors il est nécessaire de parler autrement. Et c'est ici qu'intervient la loi. Placer des âmes sous la loi. Il n'est pas mauvais de mettre quelquefois des âmes sous le régime de la loi. Et même pour des croyants, il n'est pas si mauvais que de temps en temps, on est à faire comme un stage sous la loi pour comprendre un peu ce que l'on est. Car c'est par la loi qu'est la connaissance du péché. Et alors, à des âmes auxquelles, en présentant l'Évangile, on éveille, chez lesquelles rien ne semble éveillé, on peut leur dire, on doit leur dire, suivant déjà ce que nous trouverions dans le chapitre 1er des Romains, que la colère de Dieu est révélée du ciel contre tous ceux qui croient, connaissant la vérité, pratiquent l'iniquité. Mais alors, on se révolte, alors on se redresse, contre une telle imputation. Mais ne vit pas dans l'iniquité. Ah. C'est précisément la chose à voir. Vous ne voulez pas de l'Évangile, ou l'Évangile ne vous dit rien, ou vous avez tellement entendu l'Évangile, la bonne nouvelle, sous la forme la plus simple, Christ Jésus venu pour sauver les pécheurs, que cela est devenu quelque chose de monotone pour vous, cela n'a aucun intérêt. Bien. Et la loi, que dites-vous devant la loi? La loi est juste, la loi est bonne, c'est Dieu lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Nous savons que la loi est bonne.
Il s'agit de l'appliquer à bon escient. Il s'agit de l'appliquer à qui en est justiciable. Elle n'est pas pour le juste. Si la loi n'est pas pour vous, alors c'est que vous êtes juste. Ah. On hésitera tout de même à se proclamer juste. Ou on dira, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, mais je suis bien juste, je suis honorable aux yeux des hommes. Devant Dieu, devant la loi de Dieu, devant les 10 commandements de la loi de Dieu, devant tout ce qui vient de sa part s'adresser à l'homme en lui disant « Voilà ce que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, et si tu es coupable sur un point, et tu es coupable sur tous, et l'âme qui pêche, celle-là mourra. » La loi met en évidence le péché. Alors, si vous ne pouvez pas vous dire juste, la loi est pour vous. La loi est pour vous. Mais je ne suis pas un injuste. Ah, vous n'êtes pas un injuste. La loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques, les insubordonnés, les impies, les pécheurs. Oh, mais je ne suis pas inique, je ne suis pas insubordonné, je ne suis pas impie, je me suis toujours efforcé de me bien conduire, mais je suis obéissant, j'ai de ne pas me reprocher de m'élever comme rebelle contre Dieu. Et ensuite, bon, bien. Mais voici les pécheurs. Les pécheurs. Ah. La conscience, à moins d'être totalement endurcie, est bien obligée de reconnaître que l'on est un pécheur. Seulement, là encore, le cœur est si habile, et Satan est si habile pour dorer les choses ou pour les diluer ou pour les généraliser de telle manière que tout le tranchant de la parole soit détourné. On dit oui, mais tout le monde est pécheur, mais c'est oui, en effet, mais ça appartient à une autre nature et ce n'est pas ma faute et je ne suis pas plus qu'un autre et en tout cas. C'est une expression très générale. Je veux bien reconnaître pécheur, mais pas un pécheur déclaré, avéré, décidé devant Dieu. Chers enfants chrétiens, chers jeunes gens, est-ce que ces choses-là ne s'appliquent pas à tel ou tel d'entre vous d'une certaine manière? Et encore une fois, même ceux qui, par la grâce de Dieu, peuvent se dire des enfants de Dieu, est-ce que l'expérience a été faite assez profonde pour que nous nous connaissions tels que nous sommes véritablement pécheurs? Mais admettons même que vous puissiez passer à côté de ce terme. Continuons. Jean sans piété. Oh, je ne suis pas sans piété. Il y a au moins la forme de la piété. Les profanes, batteurs de père, batteurs de mère. Oh, je n'ai jamais fait cela. Homicide. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Fornicateur, abusé de soi-même avec des hommes, voleur d'hommes. Ces péchés-là ne me concernent pas. Je suis jamais tombé dans des péchés aussi effrayants, par la grâce de Dieu. Mais voyez-vous que dans cette énumération, tous les péchés, et les plus horribles, comme ceux qui paraissent lot commun de tous les hommes sont mis sur le même plan. Et que la loi, avec toutes ses rigueurs, la loi de Dieu, s'applique à tous. Continuons. Les menteurs. N'avez-vous jamais proféré un mensonge? Oh, je ne suis pas un menteur habituel, oh, qu'il nous soit arrivé de déformer quelquefois la vérité. Cela arrive à tout le monde, et oui, cela arrive à tout le monde. Mais la question n'est pas de savoir si cela arrive à tout le monde, la question est de savoir si cela vous est arrivé à vous. Et si votre parole a toujours été conforme à votre pensée. Mais si ce que vous paraissez aux yeux des autres répond bien à ce que vous êtes en réalité. Est-ce que vos pensées profondes ont été toujours exactement exprimées par vos paroles? S'il n'en est pas ainsi, vous êtes des menteurs, des hypocrites. Hélas, qui pourrait échapper à cette seule appellation de menteur? Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine? Tout ce qui diffère de la pensée de Dieu, tout ce en quoi nos pensées profondes sont en réalité non seulement ignorantes de Dieu, mais tournées contre Dieu. Oh, la loi de Dieu, elle est violée dans les profondeurs de notre âme, de nos cœurs, de nos pensées, de telle manière que si ce qu'il y a dans le fond de notre nature reparaissait toujours, ce serait un torrent de choses impures. Du cœur sort, vous savez, tout ce que le Seigneur dit, qui peut sortir du cœur. Comme il est arrivé souvent de le dire, est-ce que il y a ici quelqu'un qui supporterait que tout ce qu'il a pensé aujourd'hui, je ne dis pas seulement tout ce qu'il a dit, mais tout ce qu'il a pensé aujourd'hui, et tout ce qu'il a pensé depuis midi, tout ce qu'il a pensé depuis une heure, tout ce qu'il a pensé depuis qu'il est entré dans cette salle, soit écrit sur le mur, là, devant vous. Voilà ce que la loi de Dieu met en évidence. Voilà pourquoi elle est donnée. Et la loi de Dieu vous condamne. Voyez, vous ne pouvez pas échapper. Nous ne pouvions pas échapper. L'homme naturel ne peut pas échapper. Il tombe sous le coup de cette loi. La loi est pour lui, et la loi condamne. Et elle condamne sans aucune rémission. Si la page s'arrêtait là, combien il serait triste pour toute âme de lire une telle page. Mais l'apôtre continue. Ayant parlé de la saine doctrine, alors il en arrive à cet évangile, et il peut dire l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il y a des bonnes nouvelles pour ceux-là, pour celui-là qui a été atteint de la sorte par la parole de la vérité. Et c'est un principe général, nous l'avons ici, quant à l'évangélisation à l'égard de la conversion d'une âme, mais cela se retrouverait dans toutes les expériences du chrétien qui est appelé à réaliser ce qu'il a dû comprendre une fois, savoir qu'en lui, en sa chair, il n'habite aucun bien. Mais combien de fois faut-il que cela
et nous soit rappelé, soit par la parole et par l'Esprit de Dieu agissant par la parole, soit hélas par nos tristes expériences. Mais prenons la place qui est celle du pécheur, revenons à la conversion d'un pécheur. Prenons la place qui convient, reconnaissons que la loi en effet est bonne, que la loi est juste, que la loi est divine parce qu'elle me condamne. Alors je me vois sans ressources, je me vois sans aucune capacité, sans aucune mérite, sans rien qui soit digne d'autre chose que de la mort et du jugement. Et alors le Dieu bienheureux et le Dieu de gloire se fait connaître dans l'Évangile. Il se fait connaître comme celui qui a tant aimé. Aimé le monde, oui, d'une manière générale, et il a donné son Fils unique, mais chacun des hommes. Il n'y a personne qui pourra dire que Dieu n'a pas aimé. Il s'agit seulement de répondre à cet amour de Dieu. Dieu vous appelle, vous qui encore n'auriez pas répondu aux appels de sa grâce et qui n'auriez pas voulu reconnaître que vous ne méritez rien que le jugement divin. C'est par là, c'est par ce travail sur la conscience que la vérité bénie de la grâce de Dieu pénètre. S'il y a des justes, c'est comme justifiés. Et ils sont justifiés parce que Dieu justifie l'impie. Il n'est pas question de justifier des justes. On n'en trouverait pas d'ailleurs. Mais Dieu justifie l'impie, mais celui qui se reconnaît impie. Et alors, quand on voit la vérité de Dieu, rencontrer la grâce de Dieu d'une telle manière. Et quand, comme je disais tout à l'heure, toutes les perfections de Dieu dont l'ensemble forme sa gloire sont vues, ou vont le voir que bien imparfaitement, mais concourir à cette œuvre du salut, à cette œuvre de la rédemption. Dieu a mis tout en jeu, si on peut parler ainsi, tout en action. Sa sainteté, sa justice, son amour, la croix manifeste tout cela. Que nous souvenions de ces choses, chers frères et sœurs en Christ, et que ce soit l'objet de notre reconnaissance et de notre louange continuelle, individuellement et ensemble, et collectivement, et comme l'Assemblée, heureuse de reporter à Dieu l'hommage qui lui revient dans le nom béni de celui que nous adorons et par qui nous adorons le Père. Et que la joie excellente que l'Esprit de Dieu met dans un cœur soit notre part à tous et soit connue et soit vue dans notre manière d'être. La joie du salut, elle est goûtée dans la mesure où l'on a connu la profondeur de l'abîme de corruption dans lequel on se trouvait. Quiconque n'a pas dit « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » ne pourra jamais chanter les louanges de l'agneau rédempteur. comme un Saul de Tarse, comme un Paul, comme l'apôtre Paul, pouvait le faire, en rappelant qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un outragé, mais qu'une miséricorde lui avait été faite. Et que tous ici, nous puissions nous unir et dans la joie bénie et de la connaissance et de celui qui nous amène au Dieu de gloire et de bonheur, nous le fait connaître comme notre Père, et que tous ensemble et d'une même voix, et nous puissions dire gloire au Fils, gloire au Père, et gloire au Dieu, et qui est le roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, qu'à lui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.